93. R. Daniel Olivo s'exprimait tout aussi calmement, mais Seldon crut déceler un changement subtil dans sa voix, comme s'il était plus à l'aise maintenant qu'il n'avait plus un rôle à jouer. « En 20 000 ans, dit Daniel, personne n'a deviné que j'étais un robot aussi longtemps que je n'ai pas jugé bon de le faire savoir. Parce que les hommes avaient abandonné les robots depuis si longtemps que bien peu se rappelaient leur existence. Mais aussi parce que j'ai effectivement la capacité de détecter et de modifier les émotions humaines. La détection ne présente aucune difficulté, mais l'altération des émotions soulève pour moi des problèmes dus à ma nature de robot, même si je peux le faire quand bon me semble. J'en suis techniquement capable, mais je dois d'abord dépasser ma volonté de ne pas y recourir. J'essaie de ne jamais interférer, sauf quand je n'ai pas d'autre choix. Dans ce cas, il est rare que je fasse plus que donner un coup de pouce, le plus infime possible, à ce qui est déjà latent. Et si je peux parvenir à mes fins sans cette intervention minimale, alors je l'évite. Je n'ai pas eu besoin de manipuler Maître du Soleil 14 pour l'amener à vous recevoir. Remarquez que je parle de manipuler car cela n'a rien d'une tâche agréable. Je n'ai donc pas eu à le manipuler parce qu'il était en dette à mon égard et que c'est un homme d'honneur, malgré les bizarreries que vous avez pu noter chez lui. Je suis effectivement intervenu la seconde fois quand vous aviez commis un sacrilège à ses yeux, mais je n'ai pas eu grand-chose à faire. Il n'était pas pressé de vous remettre aux autorités impériales qu'il n'aime pas. Je me suis contenté de renforcer un peu cette aversion, et il s'est empressé de vous remettre entre mes mains, en acceptant mes arguments qu'en temps normal il aurait jugé spécieux. Vous non plus. Je ne vous ai pas spécialement manipulé. Vous vous méfiez aussi des impériaux. C'est le cas de la plus grande partie de l'humanité de nos jours, ce qui est un facteur important du déclin et de la détérioration de l'Empire. Qui plus est, vous étiez fier de la psychohistoire en tant que concept, fier d'en avoir eu l'idée. Vous n'étiez pas gêné d'avoir approuvé que c'est une discipline applicable. Cela ne pouvait que renforcer votre orgueil. Seldon plissa le front et remarqua « Pardonnez-moi, maître robot, mais je n'ai pas conscience d'être un tel monstre d'orgueil. » Daniel sourit benoîtement. « Vous n'êtes absolument pas un monstre d'orgueil. Vous êtes parfaitement conscient qu'il n'est ni admirable ni utile d'être mu par l'orgueil. Vous tentez de réfréner cette pulsion. » Mais vous pourriez aussi bien regretter d'être mu par les battements de votre cœur, vous ne pouvez empêcher ni l'un ni l'autre. Même si vous vous dissimulez votre orgueil à vous-même, vous préservez votre tranquillité d'esprit. Vous ne pouvez me le dissimuler. Je n'ai eu qu'à le renforcer imperceptiblement pour qu'aussitôt vous soyez prêt à prendre des mesures destinées à vous cacher de démerzelles, mesures qui vous auraient fait hésiter quelques instants auparavant. Et vous vous êtes retrouvé prêt à travailler sur la psychohistoire avec une ardeur que vous auriez trouvée indigne de vous un peu plus tôt. Je ne vis donc pas la nécessité de toucher à autre chose, et vous êtes parvenu tout seul à vos conclusions sur les robots. Si j'avais prévu cette éventualité, je serais peut-être intervenu pour l'empêcher, mais mon intuition et mes capacités ne sont pas infinies. Je ne regrette pas d'avoir échoué, car vos arguments sont bons. Il est important que vous sachiez qui je suis et que de mon côté je puisse mettre mes dons à votre service. Les émotions, mon cher Seldon, sont un puissant moteur de l'action humaine, bien plus puissant que les hommes ne le croient. Et vous ne pouvez imaginer ce que peut faire l'intervention la plus minime et à quel point je répugne à y recourir. Seldon exhala un gros soupir, il essayait de s'imaginer en homme mu par son orgueil, et le résultat ne lui plaisait guère. Pourquoi? Parce qu'il est si facile d'en faire trop. J'ai dû empêcher Rachel de transformer l'Empire en anarchie féodale. J'aurais pu agir de manière brutale, au risque de provoquer un soulèvement sanglant. Les hommes restent des hommes, et les généraux canites sont presque tous des hommes. Il ne faut, à vrai dire, pas grand-chose pour éveiller le mépris et la peur des femmes qui sommeillent chez tout homme. C'est peut-être une question biologique qu'en tant que robot, je ne suis pas en mesure de saisir complètement. Toujours est-il que je n'ai eu qu'à renforcer ce sentiment chez ces officiers pour entraîner l'effondrement de ces plans. Si j'en avais fait un tout petit peu trop, j'aurais échoué dans mon projet. L'occupation sans effusion de sang. Je ne voulais rien d'autre que les mettre hors d'état de résister à l'arrivée de mes soldats. Daniil marqua un temps d'arrêt, comme s'il cherchait ses mots, puis il reprit. Je ne souhaite pas entrer dans le détail mathématique de mon cerveau positronique. Cela dépasse mon entendement, mais peut-être pas le vôtre si vous y prêtez un minimum d'attention. Toujours est-il que je suis gouverné par les trois lois de la robotique qui traditionnellement s'énoncent ainsi, ou du moins s'énonçaient ainsi jadis. 1. Un robot ne peut nuire à un être humain ni laisser sans assistance un être humain en danger. 2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf quand ces ordres sont incompatibles avec la première loi. 3. Un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'est pas incompatible avec la première ou la deuxième loi. Mais j'avais un ami, il y a 20 000 ans. Un autre robot, différent de moi. Impossible de le confondre avec un humain, lui. Mais c'était lui qui avait les pouvoirs mentaux, et c'est par son entremise que j'ai acquis les miens. Il lui semblait qu'il aurait dû y avoir une loi encore plus générale que les trois précédentes. Il l'avait baptisée « la loi zéro », puisque zéro vient avant un. Elle s'énonce ainsi. Zéro. Un robot ne peut nuire à l'humanité, ni laisser sans assistance l'humanité en danger. La première loi est donc modifiée comme suit. 1. Un robot ne peut nuire à un être humain ni laisser sans assistance un être humain en danger, sauf quand cela s'oppose à la loi zéro. Et les autres lois doivent être modifiées de manière analogue. Comprenez-vous? Daniil marqua consciencieusement un temps d'arrêt et Seldon répondit « Je comprends. » Daniil poursuivit. Le problème, Harry, c'est qu'un être humain est facile à identifier. Je peux vous en désigner un. Il est aisé, ou du moins relativement aisé, de discerner ce qui risque de porter atteinte à un être humain. Mais qu'est-ce que l'humanité? Qu'entend-on au juste lorsqu'on parle de l'humanité? Et comment définir une atteinte à l'humanité? À quel moment telle ou telle action fait-elle plus de bien que de mal à l'humanité dans son ensemble? Et comment peut-on en décider? Le robot qui a proposé la loi zéro est mort. Il est devenu définitivement inactif, parce qu'il a été contraint à une action qu'il sentait nécessaire à la sauvegarde de l'humanité sans pouvoir en être absolument certain. Et au moment d'être inactivé, il m'a confié la responsabilité de la galaxie. Depuis cette époque, j'ai fait de mon mieux. Je me suis immiscé le moins possible, faisant confiance aux hommes pour juger par eux-mêmes de ce qui était bon pour eux. Eux, ils pouvaient jouer. Moi, pas. Ils pouvaient rater leur cible. Je n'osais pas. Ils pouvaient faire le mal par mégarde. Pour moi, c'était l'inactivation assurée. La loi zéro ne laisse pas de place au danger provoqué par mégarde. Mais à certains moments, j'étais bien obligé de passer à l'action. Que je sois encore opérationnel prouve que mes interventions ont toujours été modérées et discrètes. Toutefois, à mesure que l'Empire s'engageait plus avant sur la pente du déclin, j'ai dû intervenir de plus en plus souvent, et voilà plusieurs décennies que je suis réduit à jouer le rôle de Demerzel pour tenter d'orienter le gouvernement vers une politique capable de conjurer la ruine et malgré tout je fonctionne toujours, comme vous pouvez le constater. Quand vous avez fait votre communication au Congrès décennal, j'ai compris aussitôt que la psychohistoire offrait un instrument susceptible d'identifier ce qui est bien ou mal pour l'humanité. Grâce à elle, nos décisions ne seraient plus prises à l'aveuglette. Je pourrais à nouveau laisser à l'humanité le soin de les prendre elle-même et intervenir uniquement en cas d'extrême urgence. J'ai donc fait en sorte que Cléon ait vent de votre communication et vous convoque. Puis, ayant appris de votre bouche même que la psychohistoire n'avait aucun intérêt pratique, j'ai été forcé de réfléchir aux moyens de vous pousser coûte que coûte à essayer quelque chose. Comprenez-vous, Harry ? Plutôt désarçonné, Seldon répondit : « Je comprends, Eumine. » Pour vous, je dois rester, Eumine, en ces rares occasions où je pourrai vous voir. Je vous donnerai les informations dont je dispose, si vous en avez besoin, et en tant que Demerzel, je vous protégerai autant qu'il me sera possible. Quant à Daniil, vous ne devrez jamais en parler. Loin de moi cette intention, s'empressa d'affirmer Seldon. Ayant besoin de votre aide, je gâcherai tout à entraver vos plans. Oui, je sais que vous n'en ferez rien, reconnut Daniil avec un sourire las. Après tout, vous êtes assez vaniteux pour désirer vous voir attribuer tout le crédit de la psychohistoire. Pas question que quelqu'un apprenne jamais que vous avez eu besoin de l'aide d'un robot. Seldon rougit. Je ne suis pas, mais si, même si vous vous le dissimulez soigneusement. Et c'est important, car je renforce ce sentiment juste assez pour vous empêcher définitivement de parler de moi à quiconque. Vous n'aurez même pas l'idée de le faire. Je suspecte Dorse de se douter de... remarqua Seldon. Elle sait qui je suis, confirma Daniil. Et elle non plus ne peut en parler. Maintenant que vous connaissez tous deux ma vraie nature, vous pourrez parler de moi librement entre vous. Mais jamais à personne d'autre. Daniil se leva. Harry, mon travail m'attend à présent. D'ici peu, vous allez, Dorse et vous, être ramenés au secteur impérial. Le jeune garçon Reich doit m'accompagner. Je ne peux pas l'abandonner. Il y a aussi un jeune Dalit du nom de Hugo Amaril. Je comprends. On ramènera Reich avec vous, et il en sera de même pour tout ami de votre choix. On s'occupera de vous comme il convient, et vous pourrez travailler à la psychohistoire. Vous aurez une équipe à votre disposition ainsi que les ordinateurs et la documentation nécessaires. J'interviendrai le moins possible, et quand naîtront des résistances à vos projets, si elles ne mettent pas leur réalisation en danger, vous devrez les surmonter tout seul. Attendez. Eumine, s'inquiéta Seldon. Et si malgré toute votre aide et tous mes efforts, il était en fin de compte impossible de rendre la psychohistoire applicable, si j'échouais? Daniil se leva. En ce cas, j'ai un plan de rechange sous la main. Un plan auquel je travaille depuis longtemps sur un autre monde, d'une autre manière. Il est également très difficile et par certains côtés plus radical encore que la psychohistoire. Il se peut qu'il échoue, lui aussi. Mais on a plus de chances de succès en ouvrant deux routes plutôt qu'une seule. Suivez mon conseil, Harry. Si vous parvenez un jour à mettre au point un système susceptible d'empêcher le pire, tâchez d'en imaginer deux, de telle sorte que, si le premier échoue, le second prenne le relais. L'Empire doit être stabilisé ou rebâti sur de nouvelles fondations, qu'elles existent en deux exemplaires plutôt qu'en un seul, si c'est possible. Et maintenant, je dois retourner à mes affaires ordinaires et vous aux vôtres. On s'occupera de vous. Et sur un dernier signe de la tête, il s'éclipsa. Seldon le regarda partir et commenta doucement: « D'abord, il faut que je parle à Dorse. »